Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique, un titre qui dérange, un film qui dérange aussi, un film nécessaire, comme je le disais en ouverture d'émission, qui va prendre l'affiche vendredi. Cette semaine, il y a eu plusieurs premières, le 6 à Québec, hier à Montréal, ce soir à Trois-Rivières.
Oui.
Et je me sens privilégiée d'accueillir en studio les deux réalisatrices du film, Léa Clermont-Dion. Bonjour Léa Clermont-Dion.
Bonjour.
Et Guylaine Marois. Bonjour, Guylaine Marois.
Bonjour.
Alors, c'est un film qui provoque plein de choses, les larmes aux yeux, des hauts le cœur, et après une réflexion, parce que je me disais, quand vous êtes entrée en studio, vous avez l'air toute calme. Et ce film-là fait plein de choses, mais ne nous rend pas calme. J'imagine que vous êtes passé par toutes sortes d'émotions dans le processus de création.
Oui, vraiment.
Il y a eu d'abord la genèse qui part d'un sentiment d'injustice, de la colère. Il y a eu effectivement...
Et toi, d'une expérience, en fait,
oui,
aussi.
Oui, d'une expérience que j'ai vécue de... J'ai vu et j'ai reçu des menaces, des insultes parce que je prenais parole publiquement comme femme et je revendiquais des trucs politiques. Alors, ça pouvait déranger, susciter l'inconfort chez certaines personnes et ça amenait de la haine et je comprenais pas pourquoi. Et ça, il y avait quand même un aspect de révolte en moi face à cette haine qui était à la base du projet. Puis après, il y a le processus de création qui a eu ses hauts et ses bas. Parce que sincèrement, être plongé dans la haine et l'analyser, la décortiquer, c'est extrêmement difficile moralement. C'est pas pour rien que les gens qui modèrent la haine en ligne sont souvent dépressifs. Mais à travers ça, on a quand même réussi à y aller jusqu'au bout puis à trouver de la lumière à travers des protagonistes qui sont très fortes.
Mm-hmm.
Toi, Guylaine, aussi, je pense que tu as eu des émotions toutes sortes.
Ouais, oui, effectivement. Puis donc, tu sais, il y avait un sujet qui est la misogynie en ligne. Puis après, quand on plonge, ben, on découvre des histoires puis la réalité humaine derrière ça.
Mm-hmm.
Donc, alors, c'est troublant de suivre une de nos protagonistes, par exemple, Kaya Morris, dans le temps réel où ça se passe aussi, hein, que son cyberharcèlement, donc c'était vraiment... Je pouvais voir aussi les dommages autour. Puis la deuxième chose qui, moi, m'a vraiment troublée, c'est de voir cette montée de la misogynie en ligne. Puis évidemment, là, on avait le nez dessus. Et puis de la voir se répandre. Puis au fil des années, parce que c'est des années qu'on a travaillé.
Oui, vous avez commencé en quelle année? Dans quel contexte vous avez décidé de travailler ensemble?
2015, puis et tout ça, c'est de 2015 à 2022... On peut vraiment voir une nette progression.
Ouais.
Alors, je peux te laisser raconter la genèse.
En fait, c'est que moi, je voulais faire du cinéma documentaire depuis toujours. Puis j'avais l'impression qu'il fallait faire un film sur cette question-là. Donc, j'ai contacté, en fait, les producteurs que je trouvais les plus pertinents pour ce film-là parce que je trouvais que leur proposition cinématographique passée était extrêmement percutante. J'avais particulièrement aimé God Save Justin Trudeau, mais ils ont fait d'autres films depuis, Expo 67, Jukebox. Donc, Guylaine, je trouvais que c'était intéressant aussi de collaborer vu que moi, c'était une première expérience à l'époque. Là, j'ai fait d'autres projets depuis parce que le temps a passé, mais je trouvais que c'était une belle idée aussi d'avoir deux point de vue de femme,
oui,
d'un âge différent, parce que même si Guylaine a l'air jeune, elle est légèrement plus vieille que moi, tu sais, c'est ça. Alors, je trouvais que c'était intéressant, le filon intergénérationnel aussi.
Absolument.
Et ça a cliqué rapidement entre vous
vraiment,
deux.
Vraiment, vraiment. Oui. Moi, je veux dire, j'ai été... puis, tu sais, on reçoit beaucoup de demandes quand même à la Ruelle Film. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du documentaire. Puis, on est des producteurs, mais on est surtout des créateurs, Éric Ruelle et moi, là, qui est monteur aussi. Donc, on fait tout ensemble. Et c'est la première fois qu'il y a une collaboration comme ça avec quelqu'un de l'extérieur. Puis pourquoi Léa? Ben parce que, un, je savais qu'elle avait un réel intérêt pour le documentaire, pour une vraie démarche documentaire. Et deuxièmement, parce que ce sujet, c'est pas parce que c'est au goût du jour ou que c'est le sujet à la mode, c'est profondément ancré en elle. Et
ça se voit, ça s'entend, ça se ressent.
Exactement. Donc, je savais que ça allait pas être anecdotique et qu'on allait pouvoir ne pas faire un film de surface, mais vraiment y aller en profondeur.
Mais justement, quelles sont les questions auxquelles vous souhaitiez répondre à travers ce film? Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique. D'ailleurs, titre,
mais en fait, on en parlera tantôt. On voulait pas répondre à des questions, justement.
Non,
parce qu'il y a comme un travail, puis un travail académique aussi que Léa a fait. Et puis, c'était pas de répondre à des questions, c'était...
D'en poser?
Oh, non, c'était qu'on prenne conscience de ce que c'est le cyberharcèlement. Parce qu'on en parle beaucoup, c'est dans les journaux, etc. Mm-hmm. Et là, nous, on s'est dit, notre défi, c'est que le spectateur ou la personne qui vient le voir en salle puisse le vivre. Et puisse après sortir et dire, OK, là, je comprends, je peux prendre la pleine mesure de ce que c'est. Et ça, c'était le plus grand défi, parce que c'est un film qu'on a fait. Donc, on répond pas à une question, on est comme en train d'observer des femmes en train de se faire cyberharceler.
Oui, oui. Et pour ce faire, donc, il fallait s'intéresser à l'impact de la violence numérique sur le parcours des femmes. Alors, on a fait le choix de les suivre quand même dans une certaine forme d'intimité.
Vous
on
en
les a
suivis quatre?
Oui, ouais. Les tournages ont été échelonnés sur une longue période et le but, c'était vraiment d'aller capter la vérité dans leur vulnérabilité. Mmh. Marion Séclin, elle a reçu 40 000 menaces, violences en ligne, insultes, sexistes. C'est une fille qui est parisienne, elle est youtubeuse, elle a fait une vidéo sur le harcèlement de rue. Et là, il y a le fait divers aussi qui est comme présenté, Marion Séclin, victime d'harcèlement. Nous, on va derrière les faits divers et on s'intéresse à ce qui est vécu de l'intérieur. Puis on a construit finalement une quête chorale, un film choral. Laura Boldrini, qui est l'ex-présidente du Parlement italien, qui elle a été attaquée par des tenants, je dirais, d'extrême droite, des politiciens, ses ennemis politiques. Elle aussi, Laura, on a vu son histoire dans, je pense, c'était le New York Times. Et là, on voulait aller derrière la une et comprendre vraiment dans l'intimité ce que ça veut dire être victime de haine en ligne.
On le comprend, on le ressent. Il y a aussi Kia Morris, vous l'avez évoqué. Il y a Laurence Graton. Vous vous êtes promenée à travers le monde. Finalement, vous avez décidé de sortir du Québec, du Canada pour aller à la rencontre d'autres victimes du cyberharcèlement.
En fait, pour montrer la dimension universelle, puis bon, je veux dire, c'est partout dans le monde, mais particulièrement dans le monde occidental, où on est à un point de bascule, je veux dire, dans le... permettez-moi cet anglicisme, le big picture. En Occident, on sent que l'Occident, il y a une crise, et il y a beaucoup de monde. On voit la montée de la droite. Il y a un corollaire là, avec ce qui se passe. Là, évidemment, il y a un lien. Et on voulait montrer le caractère universel et comment cette misogynie se répand vraiment en ce moment en Occident, comme d'autres idées néfastes et d'autres idéologies. Mais là, nous, on a mis, je veux dire, l'objectif sur la misogynie.
Et je pense que ça amène une force de frappe au film d'avoir une comparaison, parce que des fois, on se dit « Ah, oh, c'est au Québec, on chiale, des chicanes de famille. » Et là, finalement, on se dit « Ben non, c'est de même partout. » Et c'est ça qui est quand même inquiétant et troublant, de voir, peut-être que même dans certains États, c'est pire, comme en Italie, je pense pas qu'on puisse se comparer nécessairement à ce qui se passe en Italie, où, il y a un parti fasciste en ce moment qui est en montée. On se compare, on se console, mais on a quand même du travail à faire, évidemment.
Oui. Alors, on commence par quoi? Une fois qu'on a vu le film, là, est-ce qu'on va voir on est en pleine période électorale. Ben, on se concentre sur le Québec, est-ce qu'il y a des solutions?
Il y a des solutions, mais la première chose, je pense, c'est vraiment d'aller au cinéma, et particulièrement le premier week-end, qui a une grande incidence sur le film après. Donc, j'invite les gens à aller voir le film ce week-end, ça sort ce vendredi le 9 septembre. Pourquoi? Pour ouvrir le dialogue. C'est important de parler à nos jeunes de cette situation-là, d'y aller en famille, de discuter. C'est un film qui amène beaucoup d'émotions, de réflexions, puis ça ouvre la voie à toutes sortes de débats. Et ça, c'est important pour faire évoluer les mentalités. Moi, je crois beaucoup à ça, le débat public. J'ai pris part à d'autres discussions publiques, notamment sur la diversité corporelle, il y a 10 ans de ça. Et je me rappelle, les gens étaient comme, ben c'est quoi les solutions? La solution, c'est d'en parler. Puis là, on a fait énormément de gains, puis on a vraiment avancé collectivement.
Donc, parler le plus tôt possible, hein, comme une enseignante qui en parle à ses étudiants primaires dans votre film.
Oui, effectivement. Le côté de l'éducation, c'est important. Je pense que ça fait partie des solutions. Puis, on a quand même développé des outils. Vous pouvez aller sur stoplescyberviolences.ca. Donc, il y a des ressources pour les femmes aussi qui sont cyberharcelées. Mm-hmm. Il y a toute une série d'outils. Mais comme le disait Léa, on veut vraiment aller à la rencontre des gens là, dans les salles de cinéma.
Alors, vous vous promenez d'une salle à l'autre. Comment ça va se dérouler? Là, ça a déjà commencé avec les premières.
Sur notre page Facebook, vous allez pouvoir suivre. Mais ce soir, par exemple, on est à Trois-Rivières. Ouais. Donc, au cinéma Le Tapis Rouge, on va aller à Saint-Jérôme, Alma, Sherbrooke. À Montréal, plus spécifiquement, on va être au cinéma Beaubien tout le week-end. Donc, vous pouvez nous...
Cinémathèque
et
aussi.
Et à la Cinémathèque le samedi. Donc,
nous, on se relaie, on se promène. Ouais. Donc, c'est important qu'on voit ça. Puis, on l'a vu, nous, là, on a eu deux expériences. Donc, l'avant-première à Québec et hier soir, la première. Puis, c'est vraiment au-delà de nos espérances parce que j'ai vu des hommes pleurer. En fait, j'ai vu Régis Labeaume pleurer à Québec.
Oui, oui.
Et là, les gens veulent faire quelque chose. T'sais? Je veux dire, on veut... Léa et moi, on a écrit une lettre qui est parue hier dans la presse. On a des revendications politiques en ce moment. Mm-hmm. Puis on veut que les gens viennent voir le film et fassent pression aussi auprès des élus.
Ouais. C'est ça, c'est pas un film qui exclut les hommes, là, parce que
non.
Certaines personnes peuvent se demander comment ça se fait qu'on n'entend pas justement les agresseurs, parce que ce sont souvent des hommes qui...
Parce qu'on voulait pas tomber dans la question de pourquoi la haine. Parce que des fois, quand on pose la question pourquoi la haine, on tombe dans une tentative de justification et de banalisation de l'affaire. Et le film n'était pas sur les agresseurs. Le film était sur l'expérience vécue par les victimes, ce qui est un tout autre film.
Malgré qu'on les voit dans votre film... je pense au maire là, qui souhaite à cette Laura Boldrini, je dis 7, je me suis mal exprimée, mais on te souhaite un viol collectif pour qu'elle retrouve son sourire,
quelque
chose comme ça.
Oui.
Alors il comprend pas ce que ça implique, le mot viol pour lui ça a des résonances de ça a quelque chose de plaisant.
Ça c'est un élu. C'est quelqu'un qui est en position de pouvoir dans un pays, qui fait ça à visage découvert. Pourquoi? Pour aller chercher plus de votes. Alors, imaginez comment c'est troublant comme constat.
C'est extrêmement troublant. Et nous, notre éthique de travail, donc, était de dire, si ces personnes-là sont des personnalités publiques, qui ont une reconnaissance symbolique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on va les mettre à l'écran. Parce qu'ils existent, leur voix existe, ils vont assumer leurs propos, etc. Donc, mais si, par exemple, c'était une personne qui était radicalisée, qui pouvait commettre des actes vraiment répréhensibles et malheureux, notre volonté, c'est pas non plus de faire radicaliser davantage des individus en leur donnant un micro. Ça, c'est quand même une ligne à
ne pas franchir.
À ne pas franchir, à mon avis. Oui. Dans notre cas, en tout cas, c'est vraiment les victimes. On voulait donner la voix aux victimes. Les agresseurs ont déjà pas mal de voix.
Oui. Est-ce que Guylaine Marois et Léa Clermont-Dion, à la suite de la sortie de ce film-là, à l'annonce de la sortie de ce film-là, vous avez subi de la cyberviolence? Parce que le titre peut être provocateur. Je vous salue, salope, ou mal compris.
Ben, en fait, à date, il y a eu quelques commentaires un peu déplacés, là, mais ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu l'annonce qu'on allait réaliser le film, parce que la SODEC, quand la SODEC finance un film, donc il y a des annonces formelles. Et à la suite de ça, il y avait eu des commentaires, surtout à Léa.
Effectivement, des commentaires misogynes. Un individu qui écrit au département de sciences politiques où je faisais mon doctorat, qui disait que j'étais une conne, que voyons, qu'est-ce que qu'a fait elle à faire un film là-dessus. Des commentaires désobligeants.
Qu'est-ce que ça vous fait?
À l'époque, ça me chamboulait. Aujourd'hui, j'ai une carapace et j'ai plus rien à dire là-dessus. Tu sais, ça m'affecte plus parce que j'ai autre chose à faire. J'ai mes enfants à gérer. J'ai des couches à changer. Je suis plus là. Mais je comprends aussi la violence subie. Ça a un impact. Là. C'est juste que là, en ce moment...
Ça peut être dévastateur. Il y a quelqu'un qui suit une femme
puis
qui
moi,
se suicide.
Moi, j'ai été vraiment, vraiment triste à un certain moment donné. Mais là, je suis plus là-dedans. Sauf que je suis pas non plus l'abri. En ce moment, je ne suis pas harcelée. Si j'étais harcelée, peut-être que je trouverais ça moins drôle.
Oui,
sûrement. Donc, là, je ne suis pas dans cette circonstance-là. Donc, ça va bien pour le moment.
Bon, puis vous savez... Il y a un enjeu ici qui est important, c'est la démocratie qui inclut les femmes. J'ai enseigné l'année dernière à l'UQAM, puis il y a des jeunes femmes qui venaient me voir, qui me disaient « Ah, moi, ça m'aurait peut-être tenté une carrière politique, mais ça ne me tente pas d'être cyberharcelée. » Donc, comme...
Déjà, il y a un frein, là.
Il y a un frein, puis c'est comme, c'est une pensée là, qui vient, c'est comme ça vient avec le territoire, c'est même pas verbalisé, les gens le savent maintenant. Les jeunes femmes savent que si elles se prononcent sur des enjeux politiques...
Il y a un danger.
Alors, ben là, il faut faire quelque chose.
Ben oui.
Parce que, je veux dire, on a fait du chemin, Puis vous savez, malheureusement, l'histoire, des fois, t'sais, comme on a l'impression qu'on est dans une flèche par en avant, mais il peut y avoir des sérieux reculs. Puis, et c'est ça, moi, qui me trouble le plus. C'est de voir qu'on peut retourner en arrière par rapport aux acquis pour les droits des femmes. Dieu sait comment ça a été difficile de se rendre à peu, je veux dire, où est-ce qu'on est maintenant. Puis là, on voit quand même des signes, ce qui se passe aux États-Unis, Roe v. Wade, donc la Cour suprême qui invalide le droit à l'avortement. C'est encore, je veux dire, les États-Unis, là, c'est encore considéré dans le monde comme la plus grande démocratie. Alors, moi, pour moi, c'est un signal d'alarme. Et là, on parle du droit à la liberté d'expression.
Et on parlait de solutions, mais on a quand même effectivement des revendications, puis je voudrais juste rapidement les formuler parce qu'on a lancé hier une pétition qui s'appelle Stop les cyberviolences, puis on peut aller la signer sur le site internet stoplescyberviolences.ca. Mm-hmm. Et ce qu'on revendique, donc, parce qu'on est en campagne électorale, c'est deux éléments, donc, aux chefs de partis politiques provinciaux et à tous, en fait, les élus, c'est-à-dire qu'il faut une formation pour les policiers en matière de cyberviolence pour qu'ils soient plus adaptés à répondre.
Ça se prend juste en ligne, il n'y a rien là.
Non, exactement. C'est il y a ça. Banalisation des policiers. Ouais. Souvent, comme on le voit dans le film avec Laurence Gratton.
Mais là, je
ne
veux pas non plus généraliser. Là.
Non, mais c'est parce que ça arrive. Ouais. Alors, il faut former pour qu'ils soient plus... Ouais. C'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'ils ne sont pas formés.
Exact.
Alors, il faut les former. Puis une deuxième revendication aussi, c'est que nos élus provinciaux mettent la pression au fédéral pour que... on se tienne debout devant Mark Zuckerberg, les GAFAM de ce monde, Facebook, Twitter,
aller.
Pour que, oui, effectivement, comme que finalement, que les propos haineux qui soient diffusés sur Facebook, par exemple, aient une amende de 50... Ben, de, une grosse amende. Significative. En Allemagne, c'est 50 millions d'euros si tu fais ça sur Facebook. Les GAFAM doivent payer, Facebook doit payer 50 millions d'euros. Alors, c'est une deuxième revendication.
Qu'ils soient à la hauteur des profits qu'ils font, parce qu'ils font des profits énormes avec les propos haineux.
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils laissent ça aller.
Exact.
Alors, je vous salue, Salope. On va commencer par aller voir votre film.
Merci.
Je vous salue, Salope, la misogynie au temps du numérique. Un film dur à regarder, mais vraiment, vraiment incontournable. C'est un cliché de dire incontournable, mais dans ce cas-ci, ça s'applique complètement. C'est réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Merci pour ce film et puis on souhaite que les choses changent pour le mieux et le plus rapidement possible.
Ben merci beaucoup.
Merci infiniment.